Le bonté de l'Éternel dans ta vie, il n'y a que lui qui pouvait te regarder, il n'y a que lui qui pouvait penser à toi, il n'y a que lui qui pouvait te tendre son sceptre royal, il n'y a que lui qui pouvait te tendre la main lorsque tout le monde pouvait te tourner le dos, lorsque tout le monde pouvait t'abandonner, il n'y a que Jésus qui était là près de toi. Et il est encore là ce matin. Seigneur, nous t'élevons pour ta grâce. Jésus, nous t'élevons pour ta fidélité. Dieu d'amour, nous te magnifions. Nous te glorifions, Adonai. Toi qui nous aimes tant, oh Dieu. L'ennemi a tout fait pour nous perdre. L'ennemi a tout fait pour nous détourner de toi. L'ennemi a tout fait, oh Dieu, pour que nous soyons totalement effacés. Heureusement que tu es de là. Heureusement que tu es Emmanuel. Dieu avec les hommes. Dieu au milieu des hommes. De sorte que, oh Dieu, même quand ça trouble, tu es là pour nous délivrer. Même quand, oh Dieu, ça devient insupportable, tu es là, oh Dieu, pour nous donner ta main. Même quand, Seigneur, oh Dieu, ça devient, Seigneur, incompréhensible, nous pouvons espérer dans ta grâce. Nous pouvons espérer dans ton salut, oh Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, oh Dieu, nous avons pris la décision d'avancer avec toi. Nous avons pris la décision, oh Dieu, de continuer la marche avec toi, oh Dieu. Nous avons pris la décision de continuer à tirer, de continuer à te faire confiance, oh mon Dieu. Reçois de nous la reconnaissance ce matin encore. Reçois de nous la gratitude ce matin encore. Jésus soit béni. Jésus soit béni. Alléluia. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Jésus, merci. L'ennemi a tout fait. Il a utilisé toutes sortes d'astuces. Il a utilisé toutes sortes de méthodes, toutes sortes, oh Dieu, de situations pour arrêter notre progression avec toi. Mais ton amour est plus fort que les stratégies de l'ennemi. Ton amour est plus fort que les manœuvres du diable, oh Dieu. Seigneur, même lorsque le corps t'a cédé, nous nous référons à ce que tu as fait pour nous et nous retrouvons nos forces, oh Dieu. Nous retrouvons courage, oh Éternel, et nous pouvons encore, oh Dieu, te faire confiance et nous dire, oh Dieu, à nous-mêmes, même quand ça trouble aujourd'hui, même quand ça dérange aujourd'hui, je sais que le meilleur est auprès de mon Dieu. Il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas oublié. Il est là, il me tient dans sa main. Il me tient dans sa main. Merci Jésus. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons offrir à Jésus nos applaudissements? Est-ce que nous pouvons offrir à Jésus nos acclamations? Il en est digne. Jésus est digne de notre reconnaissance ce matin encore. Jésus est digne de notre gratitude ce matin encore. À lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, Église du Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin à ce beau programme de culte dominical au Centre évangélique francophone La Borne Matadi. Êtes-vous autant dans la joie que moi ce matin? Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et lui dire « Je suis dans la joie que tu sois mon voisin ». Est-ce que vous avez un voisin souriable? Est-ce que vous avez un voisin regardable? Est-ce que vous avez un voisin accessible? Parce qu'il y a des voisins fermés. Y a-t-il quelqu'un qui a un voisin fermé ce matin?
Tu n'as pas intérêt à être un voisin fermé. À la maison de Dieu, sois un voisin ouvert. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lui témoignons tout notre amour et toute notre reconnaissance, lui qui a permis que ce matin, que nous puissions encore nous tenir devant son Église et que nous parlions de la part du Seigneur. Nous remercions également notre frère, le pasteur Maurice, qui a bien voulu que nous poursuivions encore, que nous poursuivons encore cette pensée sur Ebenezer ce matin encore. Que le Seigneur se souvienne de lui et qu'il le délivre de toutes ses luttes. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes à la télévision, vous qui nous suivez au loin. Croyez que Dieu qui nous fait du bien en ces lieux le fera autant pour vous qui êtes au loin. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je me disais, il fallait que la louange se poursuive. Mais là, je suis obligé de parler. Et je me suis dit, ça y est. Ça y est. Quand les protocoles montent pour essuyer la chair, tu te dis, c'est comme un malade. On lui dit, voilà la salle de soins. On va te piquer. Tu vas prendre ta piquure. C'est là qu'on commence à discuter. Non, on peut s'arrêter au Mélaraka. Amen. Que le Saint-Esprit lui-même nous prenne en charge ce matin. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Et le sous-thème que nous voulons aborder et continuer à aborder ce matin, c'est grandir et continuer à grandir malgré tout. Grandir et continuer à grandir malgré tout. Nous lisons pour cela dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 21 au verset 26. 1 Samuel chapitre 2, du verset 21 au verset 26. 1 Samuel chapitre 2, du verset 21 au verset 26. Si nous avons trouvé, nous pouvons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel soulignait, continuait à grandir. Et le jeune Samuel grandissait, pardon. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Seigneur, c'est là la réalité dans la maison de Dieu. Les uns optent pour grandir, les autres réfléchissent encore comme enfants, ils se comportent encore comme enfants. C'est pourquoi il est dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et pourtant, ô Dieu, tu as voulu que dans ta maison, que nous ne soyons pas des esclaves, mais que nous soyons des fils. Le fils, Seigneur, ô Dieu, c'est celui qui a la maturité et qui comprend, ô Dieu, la valeur des choses qui sont devant lui. Seigneur, nous venons à ces lieux pour grandir. Tout est mis en œuvre, ô Dieu, pour que quelqu'un grandisse. Seigneur, s'il te plaît, que nous ne passions pas tout notre temps à la borne matadi, comme si, ô Dieu, nous n'avions jamais été au contact avec la parole qui fait grandir. Seigneur, nous voici encore à tes pieds, tout tremblant. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, ô Dieu, de ton intelligence et de ta sagesse. Que tu nous aides, ô Dieu, dans ces temps troubles que l'univers, ô Dieu, traverse. Que nous puissions, ô Dieu, garder la parole qui donne la maturité. Tu bénis, Seigneur, ta parole et tu nous instruis par elle. Au nom de Jésus, amen. Voulez-vous accueillir la parole de Dieu par des applaudissements? C'est la parole qui élève, c'est la parole qui restaure, c'est la parole qui guérit. Et elle mérite notre reconnaissance. Amen. Alléluia. Est-il possible qu'un enfant à peine sévré, ensuite déposé au milieu d'une famille rongée par l'immoralité, arrive tout de même à grandir, voire continuer à grandir, loin de ses parents? Nous avons répondu à cette question, nous avons dit ceci, nous disons que grandir et continuer à grandir est une exigence divine pour tout adopter à travers la valeur d'une graine semée à silo, mais aussi à travers grandir pour une grande utilité sociale et enfin à travers les trois dimensions de la croissance d'un adopté. Et le dimanche passé, nous avons entamé l'analyse de notre premier point intitulé « La valeur d'une graine semée à silo » en évoquant trois principes indispensables pour la croissance d'un enfant de Dieu. Et ces trois principes sont les suivants. Premièrement, tu ne peux pas monter si tu n'apprends pas à disparaître. Deuxièmement, tu ne peux pas monter si tu n'apprends pas à descendre. Et troisièmement, tu ne peux pas monter si tu n'apprends pas à affronter les vents. Nous avons pris l'exemple d'une graine d'haricot et tout à l'heure, la technique va nous proposer ce petit documentaire sur les processus de croissance en 25 jours d'une graine d'haricot. Nous avons essayé de mettre ou de rapprocher ces deux passages bibliques, Psaume chapitre 1er, du verset 1er au verset 3, mais aussi Jean chapitre 12, le verset 24. La Bible dit dans Psaume 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3, c'est que heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie des moqueurs, en compagnie des moqueurs, sur la voie des méchants et tout ça, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cet homme-là, la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Mais aussi dans Jean chapitre 12, le verset 24, le Seigneur Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si la graine qui tombe en terre ne meurt, si les grains de blé qui tombent à terre ne meurent, il ne peut produire beaucoup de fruits. La tendance de nous tous, c'est souvent focaliser vers la fin de ces phrases ou la fin de ces passages. C'est la fin de ces passages qui importe beaucoup plus pour nous parce que c'est là où nous voyons ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne de la joie et du plaisir et du bonheur. Lorsqu'il est dit, en sa saison, il produit des fruits. Lorsqu'il est dit, il produit beaucoup de fruits. C'est là que nous aimons beaucoup plus garder notre attention. Mais nous n'aimons pas plus voir le début de ces passages. Si un arbre est planté, il est comme un arbre planté. Et aussi, nous ne faisons pas trop attention là où il est écrit, si les grains de blé tombent à terre. Et pourtant, le début de ce passage et la fin que nous aimons ne nous montrent pas au milieu ce qui se passe en réalité. Il y a tout un processus au milieu là. Et c'est ce processus que nous avons essayé de visualiser le dimanche passé, si la technique peut revenir encore sur cet élément. Nous avons ce processus de croissance d'un grain d'haricot pendant 25 jours. Les grains est dans la graine est sous la terre. Le deuxième jour, la graine descend. Le troisième, elle descend. Le quatrième jour, la graine continue à descendre. Elle s'étend à gauche et à droite, mais il y a un mouvement quand même qui se fait, mais toujours sous la terre. Nous sommes au sixième jour, il y a toujours ce mouvement finalement. Au septième jour, ce qui était à l'intérieur sort la tête. Et ça commence à pousser. Et pendant ce temps, alors que la graine monte au-dessus, mais elle continue aussi à pousser vers le bas. Elle monte, le vent souffle fort au dixième jour. Au onzième jour, elle continue à monter. Elle grandit. Mais elle ne s'arrête pas, elle continue à grandir malgré tout. Il y a quelque chose au milieu qui se dit, non, moi aussi je ne reste pas. Moi aussi je dois monter. Et ce qui est au milieu continue à pousser, à pousser, à pousser. 15e jour. Vous voyez qu'il y a des feuilles qui poussent et puis il y a toujours quelque chose au milieu qui continue à monter. Il continue à grandir, malgré que le vent est si fort. Il continue à pousser le 18e jour, 19e jour. Il monte. Il monte encore et en bas, il y a toujours un travail qui est en train de se faire. Le 20e jour, il y a toujours quelque chose qui se fait. On continue toujours à monter. Le 21e jour, 22e jour, on monte. On continue encore à monter, à monter. 23e jour. 24e jour. La graine continue à monter. Et le 25e jour, la graine continue à monter. Amen. Nous avons vu ensemble avec vous ce premier principe indispensable pour la croissance d'un enfant de Dieu. C'est que tu ne peux pas monter si tu n'apprends pas à disparaître. Tu ne peux pas monter si tu n'apprends pas à disparaître. Notez ceci. Si disparaître constitue le premier principe pour la croissance de tout arbre, descendre en est le deuxième, eu égard à notre élément de documentaire sur le processus de croissance d'une graine d'haricot. Tu ne peux pas monter si tu n'apprends pas à descendre. Selon le dictionnaire français, notez, selon le dictionnaire français, descendre signifie aller de haut en bas. Descendre signifie aller de haut en bas. Descendre signifie encore être porté ou poussé de haut en bas. Retenez ça très bien. Porter, être porté ou poussé de haut en bas. Ça veut dire que la graine qui est sous la terre, il est vrai que la première étape consistait à ce que la graine disparaisse. Mais la graine qui disparaît, elle ne disparaît pas pour cesser d'exister. Amen. Elle ne disparaît pas pour cesser d'exister. La graine qui est semée, qui a disparu, bascule dans le deuxième principe automatiquement. Et ce deuxième principe consiste à descendre avant de monter. C'est là que vous avez vu dans cet élément de documentaire, c'est que la graine ne monte pas d'abord. Mais la graine commence d'abord par descendre. Alléluia. C'est pourquoi le dictionnaire parle de pousser. La graine ne reste pas à la même position, mais la graine pousse. Et pourtant, nous désirions que la graine pousse vers le haut, de bas vers le haut. Mais le principe ici oblige la graine de pousser d'abord de haut vers le bas. Et c'est là que ça devient difficile à comprendre et à vivre. Notez, Samuel, la graine semée à Silo n'a pas été épargnée par ces principes. Samuel, la graine semée à Silo n'a pas été épargné par ses principes, car il est dit ceci dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 19. Samuel, la graine semée à Silo, n'a pas été épargné par ses principes, car il est dit dans 1 Samuel 2, le verset 19. Si la technique peut nous balancer 1 Samuel chapitre 2, le verset 19, il est dit quoi? Parce que le contexte ici, c'est que Anne a demandé Samuel, Dieu a donné Samuel, et Anne est allée avec son mari, bien sûr, déposer Samuel à Silo. Elle a accompli son vœu, elle laisse Samuel. En d'autres termes, elle a semé Samuel là à Silo. Et elle est rentrée, son mari aussi est rentré. Maintenant, le sort de la graine qui est semée dans Silo, c'est lequel? C'est ce qui nous est un peu rapporté ici. Dans 1 Samuel chapitre 2, 19, la Bible dit quoi? Sa mère lui faisait Lui, là, remplace qui? Samuel. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Quand vous regardez à première vue ce passage, vous direz c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une mère responsable. C'est très bien la maman qui monte chaque année à Silo et voir son fils qui lui apporte un habit. Et c'est formidable. Nous avions parlé de l'autre fois quand nous avions parlé de servir Dieu tout en portant les fautes, nous avions fait allusion à ces versets 19. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre ici. C'est que si vous vous imaginez dans le contexte de la naissance, de la venue de cet enfant, vous comprendrez que la vie de Samuel est en train de descendre ici. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui avait été tellement attendu qu'il ne méritait pas une petite robe par an. Vous comprenez ça? Pour un enfant qu'on avait tant attendu, ce sont des valises qu'il fallait apporter à Silo. Ce sont des garde-robes qu'on pouvait bien voir dans la chambre du jeune enfant là à Silo. C'est pourquoi je dis ceci. Celui qui était habitué à voir des valises d'habits, il descend au niveau d'une petite robe par an. Une réalité difficile à accepter, mais c'est là le principe que Dieu impose pour tout celui qui veut monter. Demain, Samuel, tu auras le cri qui sera sollicité par tout le monde. Demain, c'est toute la nation qui sera derrière toi pour te dire, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Mais celui qui criera demain, aujourd'hui, il est obligé de se contenter d'une petite robe par année. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas à ta garde-robe, ne regarde pas à ton niveau de la descente. Il y a un Dieu qui t'a planté, qui voit tout ce que tu vis. Il est descendu, il est parti des valises, il est parti des grands colis, jusqu'à avoir juste une seule robe, et même une petite robe par année. Celui qui était habitué à être entouré de ses proches à tout moment, les voilà descendre au niveau où il ne va les voir qu'une seule fois l'an. Ce temps-là arrive où tu n'as plus rien à donner aux autres. Ce temps-là arrive où tu n'as plus rien à offrir aux gens autour de toi. Et pourtant, hier, tu étais bien entouré de toutes ces personnes. Mais ce temps-là arrive où on te repousse. Ce temps-là arrive où même ceux qui ont partagé ton pain hier, lève les talons contre toi, comme le dit le psaume. Ce temps-là arrive où tu as besoin des proches autour de toi, mais la descente oblige à ce que ces gens-là s'éloignent de toi. Ce temps-là arrive et ça fait toujours très mal. Vous étiez habitué à un certain mode de vie, mais tout d'un coup, c'est pourquoi en français on parle de la descente aux enfers. La descente n'a jamais été quelque chose de positif. La descente n'a jamais plu à personne. La descente a toujours fait très mal. Mais écoutez ceci, c'est une question. Quelles sont les réalités de celui qui descend? Quelles sont les réalités de celui qui descend? Notez ceci. La graine ne descend pas pour cesser d'exister. Mais au contraire, si la graine descend, la graine descend pour former des racines. La graine descend pour former des racines. Pourquoi? Parce que les racines jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement et dans la production de la plante. La graine ne descend pas pour cesser d'exister. Elle descend pour former des racines. Et les racines jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement et la production de la plante. Et nous avons appris en botanique que c'est grâce aux racines que la plante est approvisionnée en eau et en éléments minéraux. C'est grâce aux racines que la plante est approvisionnée en eau et en éléments minéraux. La graine qui est semée, qui disparaît, elle ne disparaît pas pour cesser d'exister. Mais dans cette deuxième phase de son séjour sous le sol,
La première réalité, c'est que la graine pousse de haut en bas. La graine pousse pour former des racines. En fait, ces racines sont comme une préparation pour la vie prochaine de la plante. Tu deviendras certes une grande plante de miel. Tu auras une grande utilité sociale, comme nous allons le voir un peu plus tard. Tu auras une grande utilité sociale autour de toi. Mais sans racines, tu n'as rien à espérer de bon. C'est pourquoi Dieu prend d'abord soin de te semer sous la terre et de faire en sorte que pendant un temps que tu supportes que les gens ne te voient pas encore, mais pendant ce temps, il y a une formation qui est en train de se faire sous la terre. Ce qui veut dire que même demain, quand tu vas pousser, et que si autour de toi, les hommes jaloux viennent et qu'ils coupent la plante, la racine qui est restée en bas fera en sorte que ce qui est coupé pousse encore. Dieu prend soin pour prévenir les dangers qui vont arriver demain. Dieu prend soin de préparer les malheurs qui vont arriver demain. Ils viendront en complot. Ils viendront pour te détruire, pour te déstabiliser. Mais Dieu te dit, je ne te bâtis pas sans racines. Accepte d'abord de disparaître, d'être sous la terre. Aie des racines. Va encore plus loin. C'est vrai, ça prendra 4 jours. Ça prendra 5 jours. Ça prendra 6 jours. Mais je crée ton équilibre à l'insu des hommes. Accepte d'avoir des racines. As-tu des racines ce matin? Ce monde ne pardonne pas ceux qui n'ont pas de racines. Les réalités de ce monde ne pardonnent pas ceux qui n'ont pas de racines. Le monde est en train de bouger à un mouvement comme pas possible. Mais ce sont seulement ceux qui ont des racines qui peuvent rester debout. Il n'y a que ceux qui ont des racines qui peuvent résister dans le voir, lorsqu'on parlera du vent. Il n'y a que ceux qui ont des racines. Accepte de te former encore sous la terre, que les gens ne te voient pas, mais forme-toi encore sous la terre. Tu es prédicateur, forme-toi encore sous la terre. Va encore en profondeur, va encore plus loin. Amène tes racines à gauche et à droite. Tu travailles quelque part, sans promotion, sans engagement, mais fais encore des formations à gauche et à droite. Fixe-toi solidement sur la terre, parce qu'il y aura un jour où quand tu sortiras sur la surface, on aura besoin d'un homme qui a des racines. Ce sont ceux qui ont des racines qui peuvent amener les autres plus loin. Ce sont ceux qui ont des racines qui peuvent porter les autres plus tard. Ce sont ceux qui ont des racines qui peuvent disposer leurs branches des mains pour accueillir les oiseaux du ciel. Ce sont ceux qui ont des racines qui peuvent des mains porter encore la charge de plusieurs fruits. Dieu t'appelle demain à porter de grands fruits, un grand nombre de fruits. Mais au départ, accepte de descendre pour former des racines qui supporteront ces fruits. Ne sois pas pressé pour porter des fruits. Ne soyons pas pressés pour porter des fruits. Tu as besoin de racines. Un arbre qui a beaucoup de fruits sans racines, à moins de coups de vent, cet arbre-là va tomber. Cet arbre-là va tomber. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 13, le verset 20 et le verset 21. Il parle de ces différents types de sol. Et il parle de ces sols qui avaient reçu de la graine qui est tombée sur un sol pierreux. La Bible dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque quoi? De persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ce monde a de la persécution. Ce monde expose les enfants de Dieu à toutes sortes de tribulations. Mais celui qui a des racines, il tiendra bon. Aie des racines. Sois enraciné dans la parole de Dieu. Va plus loin, forme-toi, bats-toi pour avoir des racines. Tu ne peux pas résister si tu n'as pas des racines. C'est la réalité de la graine qui descend. Mais cette réalité, une autre réalité, Jonas nous la présente d'une certaine autre manière. Nous sommes dans Jonas chapitre 2, le verset 7. Jonas chapitre 2, le verset 7. Écoutons ce que Jonas nous dit au sujet de la graine qui descend avant de monter. Jonas chapitre 2, le verset 7. Lisons tous ensemble. Il est dit quoi? Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Le contexte ici, c'est que Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. Il refuse d'y aller. Et lui, il va à Tarsis. Et là où il va, il se crée quelque chose pendant les voyages. Il jette tout dans l'eau. Et puis Jonas lui-même est jeté dans l'eau. Et il est avalé par un grand poisson. Ce qu'il déclare là, c'est à l'intérieur du ventre du poisson. C'est là, dedans, qu'il est en train de faire cette prière, qu'il est en train de faire cette déclaration. Il dit ceci, « Je suis descendu, vous voyez ça ? Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. » Il parle, il dit, « Là maintenant, sous la terre là, c'est-à-dire sous la terre, celui qui descend sous la terre, il y a une autre réalité que Jonas nous révèle ici. Jonas dit, « Les barres de la terre m'environnaient. » En d'autres termes, les verrous de la terre m'enfermaient. Autrement dit, ceux qui descendent sont comme dans une sorte de prison. C'est pourquoi il utilise l'expression « les barres de la terre m'enfermaient ». Ils sont sous les verrous. Vous comprenez ça? Donc celui qui descend, il ressemble à quelqu'un qui est sous les verrous, qui est derrière, qui est sous les barres, sous les verrous, qui est enfermé par les barres. Mais maintenant, le même récit de Jonas, écoutez ce que le Seigneur Jésus le dit en paraphrasant dans Matthieu chapitre 12, le verset 39 et le verset 40. Jonas dit, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. » Le Seigneur Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 12, le verset 39 et le verset 40. Il dit quoi? Il leur répondit. Parce que les pharisiens et les juifs viennent demander à Jésus s'il pouvait faire un miracle, s'il pouvait produire un signe. Et Jésus répond de cette manière. Il leur dit quoi? Il leur répondit, une génération comment? Méchante et adultère demande quoi? Un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Verset 40. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Maintenant, comment comprendre ces deux passages? C'est là où j'aimerais alors que nous puissions aller plus loin pour lire l'apôtre Paul dans Éphésiens 4. La Bible est formidable. Éphésiens 4, les versets 9 et les versets 10. Parce que Jonas dit, je suis descendu. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes et les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Et Jésus dit, une génération méchante et adultère demande un miracle et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera aussi 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Maintenant, l'apôtre Paul vient clarifier les choses pour nous montrer ce qui s'est réellement passé, comment Jonas s'est remonté. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, le verset 9 dit ceci. Or, qu'est-ce que signifie? Lisons tous ensemble. Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu où? Dans les régions inférieures. Verset 10. Il est dit quoi? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir quoi? Toutes choses. En d'autres termes, ça veut dire, l'apôtre Paul est en train de montrer ici. Jonas est en train d'expliquer la réalité de la vie des enfants de Dieu et des saints qui mouraient dans l'Ancien Testament. Toutes les fois qu'ils mouraient, ils allaient dans les séjours des morts et ils étaient comme enfermés dans les verrous. Vous comprenez ça? Jusqu'à ce que Jésus est venu, par sa mort, la Bible dit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et c'est de là qu'il a ouvert les portes du séjour des morts. Il a transvasé ce qui était dans le séjour des morts, le Sheol, pour les ramener au ciel. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu es descendu dans les régions inférieures. Mais je t'informe qu'il y a quelqu'un qui est descendu là-bas, dans les régions inférieures de la terre, pour récupérer tous ceux qui sont descendus. Je ne sais pas tu es à quel niveau de sous-sol, mais il y a Jésus de Nazareth qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Ainsi, ceux qui sont encore renfermés par les verrous, ne craignez plus rien, car votre cause a déjà été prise en charge. Il y a Jésus de Nazareth qui est descendu dans les régions inférieures de la terre pour sortir tous les captifs. Je te pose la question ce matin. Dans quelle prison es-tu ce matin? Dans quel verrou es-tu ce matin? Jésus est capable de briser les verrous. Il est capable de briser les barres. Il est capable de briser toutes sortes de malédictions. Il est capable de briser toutes sortes d'obstacles. Il est capable de te faire remonter du niveau le plus bas pour te ramener à la surface. Tu te poses toujours la question, mais qui me remontera? Qui me fera remonter alors que dans mes affaires, je ne fais que descendre? Alors que dans ma santé, je ne fais que descendre? Alors que dans ma relation avec les autres, tout ne fait que descendre? Rien ne va, tout ne fait que descendre. C'est chaque jour que je sens mon corps me quitter. Je te donne une bonne nouvelle ce matin. Il y a quelqu'un qui est capable de descendre dans les régions inférieures de la terre pour récupérer tous ceux qui sont dedans. Il y a quelqu'un qui est capable de descendre dans les régions inférieures pour récupérer tous ceux qui y descendent. Alléluia. Moïse l'a adopté, notez. Moïse l'a adopté, a tenté d'échapper à ses principes. Quel principe? Apprends d'abord à descendre avant de monter. Moïse l'a adopté, a tenté d'échapper à ses principes, cherchant à montrer aux hommes qu'on peut monter dans la vie sans avoir au départ répondu au rendez-vous de la descente. Nous sommes dans Actes chapitre 7, du verset 22 au verset 29. Moïse l'adopté a tenté d'échapper à ses principes, cherchant à montrer aux hommes qu'on peut monter dans la vie sans avoir au départ répondu au rendez-vous de la descente. Actes chapitre 7, du verset 22 au verset 29. C'est Étienne qui est en train de s'expliquer ici devant les Sanhédrin. Et il arrive au chapitre de Moïse. Écoutez ce qu'il dit. Actes chapitre 7, du verset 22 au verset 29. La technique, s'il vous plaît. Si c'était à la télévision, j'allais demander un reportage. Mais là, je ne suis pas à la télévision. Actes chapitre 7, verset 22 au verset 29, la Bible dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Notez bien, il était comment? Puissant en parole et en œuvre. Verset 23. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans les cœurs de visiter ses frères, les fils d'Israël. Quelque chose de très bon, n'est-ce pas? Verset 24, il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Sans racine, ils ne comprendront jamais. Verset 26, le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Verset 27. « Mais celui qui maltraitait son prochain les repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Verset 28. « Veux-tu me tuer comme tu as tué hier ?» Verset 29. « À cette parole, Moïse prit la fuite. » Et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra des fils. Je me suis posé la question. Comment celui qui était puissant en parole et en œuvre, du jour au lendemain, peut commencer à fuir? Quand on n'a pas de racines, une puissance en parole et en œuvre sans racines du désert
ne produit que les reniements des frères. Vous pouvez être puissant en parole. Vous pouvez être puissant devant les hommes. Mais sans les racines, vous ne rencontrerez que les reniements des frères. Notez ceci. Une puissance en parole et en œuvre sans racines du désert ne produit que les reniements des frères. Une fois que les racines produites, celui qu'on avait renié hier en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est celui-là que Dieu envoie comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange. C'est pourquoi je reviens encore sur Ephésiens 4, le verset 9 et le verset 10, surtout le verset 10, la Bible dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté aussi au-dessus de toutes choses. C'est pour dire qu'avant les racines, tu peux être renié, tu peux être repoussé par les gens. Mais quand Dieu t'envoie sur le chemin où tu dois produire les racines, ça ne sera pas une autre graine qui va monter en haut. Ça ne sera pas une autre graine qui va pousser vers le haut, mais c'est la même graine qu'on a vue s'aimer et descendre, c'est la même graine aussi qui va monter. C'est pourquoi il est dit ceci au chapitre, toujours Actes chapitre 7, verset 30. Au verset 36, parlant toujours de Moïse, parce qu'ils l'ont renié, ils l'ont repoussé, mais c'est la même graine finalement. Après son passage dans le désert, la Bible dit, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. 31. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Verset 33, le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre comment? Sainte. Verset 34, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Verset 35, c'est Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Verset 36, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Je voudrais dire ici, frères et sœurs, sans racines, tu ne peux pas accéder à la saison du surnaturel. Sans racines dans ta vie, tout paraîtra normal pour toi et tu n'accéderas jamais dans la saison du surnaturel dans ta vie. Notez ceci, la montée de tout adopté après les rendez-vous de la descente passe toujours par des phénomènes surnaturels et spectaculaires. Celui qui est descendu, la graine que Dieu a semée, ne sort jamais par des mécanismes naturels. C'est pourquoi vous allez voir que pour Moïse, la Bible divise la vie de Moïse en trois périodes de 40 ans. Les premiers 40 ans, c'est pendant qu'il était en Égypte et puis dans la maison de Pharaon. Les deuxièmes 40 ans, c'est qu'il devait aller au désert. C'est là, dans ces 40 ans-là, qu'il devait former les racines pour la mission des 40 ans autres après, à venir. Vous comprenez ça? Donc, pour tenir dans une mission de 40 ans, Dieu lui impose 40 ans de formation des racines. Vous ne pouvez pas supporter les autres si vous n'apprenez pas à aller là, de haut en bas, pour former des racines. Mais celui qui passe par cette école de formation, tout alors dans sa vie se déclenche par un mécanisme du surnaturel. C'est pourquoi la Bible dit, alors qu'il était en train de faire paître le troupeau de son beau-père, c'est là qu'il entend, qu'il voit un phénomène extraordinaire. C'est là qu'il aperçoit un buisson qui était en train de brûler, mais qui n'était pas en train de se consumer. Et c'est là, à l'intérieur de ce buisson, qu'il entend une voix qui lui parle, qui lui donne des injonctions pour la mission future. Tu ne peux pas descendre par le chemin de Dieu et sortir par les voies de tout le monde.
Tu ne peux pas descendre par le col de Dieu et remonter à la surface par les méthodes de tout le monde. Dieu sait toujours créer la différence entre les autres graines et ses propres graines. Tu n'es pas n'importe graine pour monter de n'importe quelle manière. Dieu se chargera lui-même de ta montée à la surface. Et il le fera par des méthodes surnaturelles. C'est pourquoi je voudrais dire à un homme ce matin, c'est la même graine qui est descendue qui va monter encore. C'est la même personne qu'on a vu humilier. C'est la même personne qu'on verra aussi sur la place publique. C'est la même personne qu'on a vu maltraiter aujourd'hui. C'est la même personne qu'on verra aussi monter en gloire demain. C'est pourquoi la Bible parle dans Jean 9, 1 à 9 de cet aveugle né. La Bible dit, cet homme-là est né aveugle. Les disciples posent la question à Jésus. Maître, qui a péché entre cet homme et ses parents? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle ou bien c'est lui-même qui a péché? Le maître dit, ce n'est pas là la question. Ce n'est pas que ce soit lui qui a péché ou que ses parents aient péché. Mais c'est ici quelque chose pour prouver, pour faire manifester l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Jésus fait la boue avec sa salive. Il applique sur les yeux de l'aveugle, il envoie se laver à Siloé. Et quand il revient, il voit clair. Maintenant, les gens autour de lui qu'il avait connu avant posent la question. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? D'autres autour de lui disaient quoi? Il les ressemble. Mais lui-même disait, c'est bel et bien moi. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu es cette graine-là hier pourrie. Tu es cette graine-là hier méprisée. Tu es cette graine-là. Vous savez, dans nos maisons, il y a des mamans, et des fois, quand ils préparent les haricots, il y a des graines pourries qu'on jette toujours. On prend, on jette derrière la maison. Mais deux, trois jours, cinq jours, six jours, sept jours après, quand elles-mêmes retournent derrière, elles retrouvent les mêmes graines, autrefois pourries, mais ce sont les mêmes graines qui vont encore pousser. J'ai pris ce matin que peu importe la nature de la graine que tu es, que tu pousses, même au milieu de tes ennemis que tu pousses, même au milieu de ceux qui ne veulent pas de toi, que tu pousses. Là où tu as été repoussé, que tu pousses encore. Là où tu as été piétiné, que tu pousses encore. Parce que tu es la graine qui est appelée à faire de grandes choses demain après demain. Ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui. Pousse encore des racines. Accepte de pousser des racines. Ce sont ces racines qui vont te maintenir demain. Alléluia. Jésus est capable de descendre là où se trouve l'homme captif et pour le délivrer de toutes sortes de chaînes. Ce matin, je ne pourrais pas terminer ce message sans pour autant m'adresser aussi à tous ceux qui sont, c'est vrai, descendus eux aussi. Ils ne sont pas descendus selon les méthodes de Dieu, mais ils sont descendus par eux-mêmes, par la drogue, par l'alcool, par toutes sortes de choses, l'adultère, la fornication. Vous êtes devenu captif de toutes ces choses. Jésus est capable de descendre là aussi. Jésus est capable d'aller plus loin, là où vous êtes, et vous faire remonter à la surface. C'est pourquoi il dit dans Luc chapitre 4, le verset 19, il dit d'abord, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. Et au verset 19, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance est prévue pour vous aussi. Pourquoi voulez-vous rester captif? Pourquoi voulez-vous rester sous les verrous? Et pourtant, le sauveteur est déjà descendu vers vous. Le sauvetage a déjà été lancé. Pourquoi voulez-vous rester enfermé dans cette prison pendant que le sauvetage a déjà été lancé? L'opération est en cours. Ne restez pas là où vous êtes. Ne restez pas dans cette prison. Aujourd'hui, si vous voulez donner votre vie à Jésus, vous aussi, vous verrez les portes de votre prison de l'alcool être brisées. Êtes-vous prêt à donner vos vies à Jésus? Êtes-vous prêt à sortir de ces verrous? Courbons nos têtes dans la prière. Vous avez été touché par la parole de Dieu, vous voulez donner votre vie à Jésus. Levez-vous là où vous êtes alors que nous avons nos yeux fermés. Vous êtes prisonnier de quelque chose. Vous êtes sous les verrous. Vous êtes sous les barres de la terre. Vous êtes captif, bloqué par quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. N'ayez honte de personne. N'ayez honte de personne. C'est votre vie qui est en danger. C'est votre vie qui est menacée au quotidien. Qu'est-ce qui vous bloque? Vous êtes là ce matin. Vous sentez que votre vie est bloquée par toutes sortes de verrous. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes descendu, c'est vrai. Vous savez vous-même que je suis là à l'école de Dieu. Mais les verrous semblent être durs. Les verrous semblent prendre beaucoup plus de temps que prévu. Vous avez besoin d'un sauveteur. Et Jésus est là pour vous sauver. Jésus est là pour vous remonter encore à la surface. Oh Jésus, je ne pense pas que ce soit seulement ce nombre ici. Et pourtant, les réalités sont visibles et palpables devant nous. Quelles sont les réalités de votre situation, de votre vie aujourd'hui? Les verrous vous ont enfermé. Il y a quelqu'un qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il y a quelqu'un qui a fait ce travail et qui continue encore à le faire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous rester esclave de cette situation? Pourquoi voulez-vous rester en prison, prisonnier, prisonnière de cette réalité? Il y a Jésus qui est capable de vous sortir de là. Oh Seigneur, vois ces hommes et les femmes, Seigneur. Captifie les sangs, les uns, oh Dieu, par les péchés. Je prie ce matin que tu les voies, que tu rencontres chacun, oh Dieu, dans sa cellule, que tu rencontres chacun, oh Dieu, dans sa prison. Seigneur, ils ont peut-être tenté par plusieurs sortes de solutions. Ils ont pris des décisions, mais ils n'ont pas pu, oh Dieu. Mais ils sont venus ce matin pour te dire qu'ils n'aiment plus, qu'ils ne veulent plus rester dans cette descente. Ils ne veulent plus, oh Dieu, rester dans cet enfer. Ils ne veulent plus rester, oh Dieu, dans ces régions inférieures. C'est pourquoi ils sont venus vers toi, oh Dieu. C'est toi qui es capable de remonter les hommes à la surface, oh Dieu. Pardonne le péché, oh Dieu. Relève encore des vies ce matin, oh Éternel. Nous avons besoin, oh Dieu, de voir, Seigneur, ton Église atteindre, oh Dieu, cette maturité que tu veux. Mais aussi, Seigneur, j'ai prié pour ces hommes et les femmes qui sont, oh Dieu, dans les régions inférieures à cause des réalités présentes de leur vie. Mais c'est la même graine qu'on a vu descendre. C'est la même graine qui montera aussi. Que ça ne soit pas une autre graine, oh Dieu. De la même manière, Seigneur, qu'on les a vus mépriser, c'est de la même manière qu'on les voie aussi monter, oh Dieu. Car la graine ne descendra pas seulement, la graine montera aussi. Merci, Seigneur. Reprenez vos places. Tu bénis ces dîmes, ces offrandes, ces dons volontaires, oh Dieu, tout ce que nous apportons comme libéralité. Tu les sanctifies, oh Dieu, et tu donnes sagesse à ceux qui gèrent. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.